interprète à un moniteur devant lui qui correspond exactement à l'image qui est diffusée derrière lui. Donc il n'a pas de partition, sa seule partition c'est qu'il voit la lumière qu'il génère et il sait se positionner spatialement puisqu'il est vis-à-vis du public, normalement ses découpes sont cachées et il n'y a aucun repère sur scène à part un petit scotch qui lui permet de se centrer. Voilà, il y a également un cronde qui est noté sur la fiche technique en rouge en bas là, qui est un récepteur HF pour la transmission des capteurs, parce qu'on a utilisé aussi des capteurs, je pourrais vous en reparler ultérieurement, qui maintenant est remplacé par un système XBI et qui sera remplacé prochainement par d'autres technologies. Les outils de captation du mouvement qui ont été utilisés donc via le logiciel MaxMSP ont été notamment la librairie SoftVNS, donc qui a été introduite par Laurent Potier à l'époque, parce que vous travailliez déjà sur ce type de librairie, donc qui n'est pas sans problème. C'est-à-dire qu'on a utilisé cette librairie qui est très bien conçue, qui a permis très rapidement de réaliser ce projet, parce qu'il y a vraiment un background de David Rugby qui utilise ça depuis le milieu des années 80, mais qui m'a posé un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant pas mal d'années, il a arrêté de développer sa librairie, et on peut jouer cette pièce qu'avec un G5 en 10.3.9 pour des raisons un peu plus complexes de timer, quoi, bon, parce qu'il a fait une partie en assembleur, quoi, c'était assez compliqué. On a eu l'avantage d'utiliser une librairie très performante parce qu'il a fait une partie du code en assembleur, où il a détourné des problèmes qui étaient assez importants dans Jitter. Et ce qui lui a coûté cher, c'est au moment de faire les mises à jour quand on est passé en OS X, Intel, etc. Ça a été une vraie galère pour lui. Mais il est sur le point d'y arriver. Là, je crois qu'il a bien bossé. Je n'ai pas encore pu tester réellement sa mise à jour, mais en tout cas, ça pose un problème. C'est-à-dire que là, on est dépendant pour cette pièce-là d'une librairie qui est maintenant entretenue par un seul gars. Voilà, donc sinon la caméra donc, qui communique avec le computer, on a évidemment une carte d'acquisition qui, dans mon cas, moi, après mes essais, à l'époque, était une carte PCI pour des questions de latence et de fiabilité de captation. On a utilisé du motion, qui est tout simplement une différence de deux images successives pour savoir quel mouvement il y a pu avoir à tel endroit, etc. On a utilisé un autre objet qui s'appelle présence, qui est une forme d'exposition un peu comme pour la photo, pour créer des certaines rémanences ou disparitions. C'est un effet vidéo. Un effet age qui est... ces motion et présence, j'ai pu le reconvertir en jitter d'ailleurs. Age, je n'ai pas encore fait ça. Peut-être que tu as fait ça déjà, Laurent. C'est une rémanence de pixels. C'est comme si, dès qu'il y a une activité de luminance, à ce moment-là, il date un pixel et il le maintient un certain nombre de temps à l'écran, avec un dégradé comme ça. C'est un effet un peu spécial qui est beaucoup utilisé dans cette pièce. Il y a le head tracking qui nous a permis au début justement de pouvoir suivre un mouvement par ce qu'on appelle une tête, donc une sorte de groupe de pixels qui permet de définir une tête et de suivre le mouvement de l'interprète, qui par la suite j'ai remplacé ça par un centroïde en fait, puisque c'était plus simple. D'ailleurs on peut le faire aussi dans Jitter. Et en fait, le suivi du tête, pour cette pièce-là, on n'avait pas besoin de suivre plusieurs têtes en même temps. Donc, centroïde, c'est réellement le centre de gravité d'une activité lumineuse sur l'image. Donc, on définit un point, et à partir de là, on a des coordonnées x, y qu'on peut traduire pour appliquer ça sur différents paramètres. On a donc la notion de région, qui permet de diviser donc l'image en différentes sections, en différentes matrices. À l'époque, on pouvait également dessiner, même carrément, des régions, des ronds, des figures un peu tordues. et une notion de buffer qui permet d'enregistrer la vidéo en temps réel et de la relire. On a utilisé également des capteurs qui, à l'époque, étaient des accéléromètres qui sont complétés de gyroscopes plus tard et qui communiquent directement via OSC au patch max. Donc après, on a un générateur d'audio et de traitement qui est un peu classique. On a 24 magnétophones, stéréo, un filtre résonant, des modulateurs de volume. Alors c'est en gros un outil qui permet de convertir la quantité de mouvement en enveloppe d'amplitude pour un peu sculpter le volume sonore de séquence, ce qui a été beaucoup utilisé pour cette pièce. Et on a des lecteurs mono qui sont chargés en RAM pour scratcher, un sampler qui, dans ce cas, est en son de fente, flûte simple. J'ai utilisé flûte simple. Deux spécialisateurs 8 points, 8 sorties fixes pour chaque enceinte également. Et en objet fixe, donc ça c'est relié à une matrice. Et en objet fixe, on a un lecteur quad, mono, voilà, 3 lecteurs en RAM. Un lecteur 5.1, puisqu'il y a des choses qui sont rajoutées au fur et à mesure, comme ça. Donc, le départ de l'écriture, donc Thierry Demey, comme je disais, avec toute une expérience d'écriture de pièces, musique de table, Silence Must Be, différentes pièces pour les mains. Donc, il est arrivé avec une sorte de background, comme ça, de symboles, de nomenclature. Voilà, ça, je pense que c'est ce qui existait auparavant. Et celle-ci, c'est ce qu'il a dû définir pour cette pièce. En tout cas, tout ça, c'est vraiment les brouillons. Hein. C'est ce qui va être repris prochainement. Donc, comment décrire la main vers le haut, etc. Quoi, voilà. Et on va revoir ça après, plus tard, sur la partition. Donc, je vais vous présenter maintenant. On va prendre la pièce un peu dans l'ordre, comme ça. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer un petit peu les différents modes de jeu qu'on a utilisés pour cette pièce. Donc en gros, la matrice principale qu'on a utilisée pour les mouvements, c'est une matrice de 9 par 12 qui correspondait assez bien à la taille de la main de l'interprète. Il arrive facilement à maîtriser un de ces rectangles par rapport à l'échelle du plateau. Donc le premier mode de jeu, ce que j'appelle les FUIP, en fait, c'est tout simplement, on a associé un échantillon à chaque rectangle. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on est parti que sur le projet captation vidéo, donc du motion. Et le premier problème qu'on a rencontré, c'est que les caméras qu'on utilise à 25 images par seconde, vu qu'il fallait faire une différence entre deux images, on avait un retard assez conséquent qui est de l'ordre de 80 millisecondes, même plus, parce qu'il y a des caches vidéo, etc., qui se rajoutent. En gros, on avait un système qui était peu réactif pour jouer un événement discret, c'est-à-dire déclencher une note. Donc, on a associé à ça donc une technologie de capteur, d'accéléromètre, qui nous a permis de instantanément déclencher sous forme de trigger une note, mais d'utiliser ce mapping absolu pour dire qu'il est en train de jouer telle note dans l'espace ou telle note. Mais c'est l'accéléromètre qui déclenche la note et le motion qui dit quelle note jouer. Bon, forcément, il y a forcément une petite distorsion entre un mouvement et une note qui peut. Il y a des délais, on ne cherche pas à tout analyser non plus. En tout cas, ça fonctionne. Voilà, après, bon, c'est tout simplement des échantillons stéréo. Il y en a qui sont fixés derrière lui. Et puis, l'autre piste qui est spatialisée. Alors, au niveau spatialisation, on utilise un peu. On n'utilise pas les régions, mais on utilise plus la notion de centroïde pour directement piloter en XY le déplacement, une sorte d'interpolation comme ça entre 8 points de diffusion. Il y a un deuxième mode de jeu qui consistait à l'époque, donc maintenant ça je vais le remettre en cause je pense, mais en gros c'est, on sépare les parts, l'espace en deux. Donc en même temps que l'interprète peut jouer des échantillons comme ça en fonction de son accélération, l'espace rouge est relié à un son fixe, hein, qui est tout simplement une bande qu'on n'entend pas, et que l'interprète module par le geste, il module juste son amplitude. Et l'espace vert est une autre zone. Donc, je pense qu'on va écouter un exemple. Voilà la partition de l'exemple qu'on va écouter. Où on a la main droite qui est représentée sur la portée du dessus et la main gauche sur la portée du dessous. Et donc on part du centre vers l'extérieur, retiré. Voilà, donc il y a une sorte d'écriture comme ça. Qui est faite. Alors ça c'est l'ébauche, hein. On est parti de ça pour créer le projet. La prochaine étape ça va être d'écrire toute l'évolution du dispositif, quels sont à déclencher, quelle zone, quel mode de jeu, donc tout ça, ça va se compléter dans les mois qui viennent. Donc on voit bien qu'il est en train de jouer, donc il génère ces sons-là, et c'est vrai que c'est assez, ça marche très bien. On a réellement un retour direct dès qu'on met la main, et en fonction du mouvement, et ben on a ce retour de son. Alors dans ce cas-là, en fait, au fur et à mesure qu'il interprète s'approprier la pièce, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du patch, au début, je lissais pas mal les choses, parce qu'il était un peu maladroit par rapport aux gestes, c'est-à-dire qu'il avait besoin de s'approprier cette partition. Et plus j'y allais, plus je lui donnais de la réactivité. C'est-à-dire que j'arrêtais de lisser le volume pour l'obliger à être encore plus connecté au son, qu'il soit encore plus responsable du son. Et c'est un peu ce processus qu'on a appliqué tout au long de la pièce, en fait. Et qui oriente aussi le travail qu'on a à faire sur l'édition, c'est-à-dire proposer un outil qui permet à quelqu'un qui découvre la pièce de commencer à la jouer, la répéter quasiment en playback, et au fur et à mesure qu'il va travailler, eh ben, il va pouvoir prendre de plus en plus possession aux différentes interactions. Donc là, c'est un autre mode de jeu où il y a juste une zone qui est sensible, qui est la tension, et donc il doit accélérer, exciter cette zone pour générer ce son. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que là, comme il le fait, ça a beaucoup évolué. Hein. Ça a été filmé la première représentation, la troisième représentation de la pièce. Donc depuis, il y a eu un grand chemin qui a été fait. Et notamment, justement, on a beaucoup travaillé cet aspect. Au début, quand il faisait ça, parce que c'était le motion que je récupérais le motion pour jouer les notes. Et après, j'ai préféré lui relier les accéléromètres pour l'obliger, parce que ce que voulait réellement... Thierry, c'était réellement l'idée qu'il y avait quelque chose de très tendu comme ça. Donc il a fallu que j'adapte quelque part l'outil pour contraindre son geste à correspondre plus à ce que Thierry demandait. Après, il y a un autre mode de jeu qui est lui silencieux, qui est les pulsations, et qui fait référence à une pièce qui a été le point de départ en fait de cette pièce Silence Must Be, de Light Music. Et cette pièce s'appelait Silence Must Be. Je crois qu'il y a un extrait. où là, il y a, c'est dans le silence où il y a le performer qui joue ça. Et moi, j'ai travaillé à partir de ça, en fait. Ça a été mon point de départ. Il m'a donné cette vidéo, puis il m'a dit, voilà, c'est ça que je veux faire ça, mais il faut que ça fasse du son. Tu te souviens bien, hein, mais... Il part de la puce, puis après il décompose et il fait du 3 pour 2, 5 pour 3, 8 pour 5, la suite de Fibonacci. Alors, ce qui est très marrant, c'est que maintenant que je vois ça, que je connais les sons qu'on a mis sur ce genre de pièce, j'entends le son en fait. Ça me fait rappeler, c'est une anecdote que m'avait raconté Thierry quand il avait bossé avec Bob Wilson. Il avait fait tout un travail de composition de percussion pour Bob, donc en situation, parce que c'est comme ça qu'il travaille. Et la veille de la première, eh ben, il arrive, donc Thierry il avait bossé comme un fou pour finir ses sons. Et Bob lui dit, ben, maintenant vous avez bien entendu le son, ben, on joue sans musique. Vous l'avez en vous et vous n'avez plus besoin du son. Donc Thierry était effondré parce que... Évidemment, personne n'a jamais entendu sa composition, mais en fait, elle était là. Donc, je pense que c'est des petites expériences comme ça qui a dû aussi imprégner pour faire ce genre de travail. Voilà, je vais avancer un peu plus vite. Et là, c'est la version, on dirait en lumière, quelque part. C'est marrant, c'est pas mal de gens en concert, des fois, étaient inquiets. Ils pensaient que le dispositif marchait pas, en fait. Là, on voit l'effet présence, justement. On a une sorte d'empreinte. Plus il reste longtemps, plus il imprègne une sorte de rémanence, comme ça, juste. Bon, voilà, je vais accélérer un petit peu, là. Donc on a un autre mode de jeu qui est la mer, où là maintenant on a réellement deux voix de polyphonie distinctes, et là il fait tout simplement mixer l'un par rapport à l'autre, et au niveau de la partition, c'est ce qu'il représente un peu par des vagues. Rapidement. Les séquences, voilà, ça a été un souci, donc ça reprend ce qu'on vient de voir tout à l'heure sans son, mais avec du son. Donc on va l'écouter. Ce que je peux juste vous dire, c'est que donc sur la partition, on voit qu'entre deux séquences, il y a un noir, et on va utiliser ce noir pour que l'interprète puisse relancer la séquence suivante. Donc c'est lui qui pilote ça, mais la séquence, c'est du playback. Quand il danse dessus, dans ce cas-là. Revenir à ça, mais on pourra en discuter si ça vous intéresse. Et donc j'ai eu la chance de travailler sur ce type de séquence, donc parce que ça a pas mal perturbé Thierry, parce que lui évidemment il voulait que tout soit en temps réel, il dit je veux faire ça comme ça, faut que ça sonne et tout, et moi j'étais, de toute façon j'étais pas capable de le faire à l'époque, et d'ailleurs toujours pas maintenant, mais le problème il se pose pas comme ça en fait. C'est à dire qu'à un moment donné j'ai travaillé notamment avec le suivi du geste que Frédéric Bélivacois développe avec son équipe. Et on a expérimenté pour voir est-ce qu'on pouvait jouer ce genre de séquence avec ce genre de technologie. Alors curieusement, ça a très bien marché tout de suite. Donc ça voulait dire que la séquence était réellement des échantillons. De toute façon, c'est comme ça que Thierry a travaillé. Hein. C'est-à-dire qu'il travaille dans un séquenceur, c'est des échantillons, et après il a bouncé un fichier son. Et là, on s'est retrouvé. Donc je lui ai demandé à retrouver, ce n'a pas été simple, une version de départ sous forme d'échantillon. Comme Jean maîtrisait parfaitement la pièce, ben, j'ai enregistré son geste en playback sur une séquence, et après je lui ai dit ben, maintenant tu le rejoues et tu vas pouvoir c'est toi qui vas décider de t'arrêter, de reprendre et de décomposer cette même séquence. Alors au moment où on a fait cette captation, donc j'enregistre, derrière je lui dis vas-y rejoue maintenant. Techniquement ça a super bien marché, donc tout de suite c'était ok, ça marche, parfait. Il réessaye une deuxième fois, il comprend qu'il peut s'arrêter, reprendre, magnifique. Le lendemain, donc sur ce ton optimiste, on remet le couvert le lendemain et on repart de ce qu'on avait enregistré la veille. Et là, les choses se sont compliquées. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que déjà, il n'était plus le même par rapport à la veille. Et quand il a voulu rejouer ce même geste, il y avait des petites variations qui fait que ça marchait, mais plus ou moins. Il y avait une note qui manquait, ça se décalait. Et là, on a commencé à être attentif et à regarder, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire réellement avec cet outil. Est-ce qu'on n'était pas complètement en train de se planter pour la situation, pour l'interprète, hein, c'est un cas vraiment très particulier. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que Jean jouait mieux du playback que rejouer cette séquence par suivi, même en le faisant d'une manière dynamique. Curieusement, il y avait toujours un petit décalage, il y a quelque chose qui collait pas en fait. En le regardant, il y avait on perdait une dimension poétique, et à la fois l'interprète aussi, c'est peut-être aussi lié à ça, tout d'un coup il était dans une contrainte gestuelle qui l'empêchait de jouer, parce qu'en fait quand il fait ça, c'est un danseur en fait. Je crois que tout simplement. Même si lui, il est persuadé de jouer le son, parce que si on le demande, il est convaincu qu'il génère le son, mais en fait, il est libre de se réapproprier le son, et en fait, il danse. Qu'il veuille ou non, il danse à ce moment-là. Et donc, on a préféré, garder cette dimension, cette liberté, et utiliser plutôt un peu ce qu'on a vu avec le noir, c'est-à-dire qu'on... Donc, dans ce cas précis, le suivi du geste nous a pas permis d'aller réellement vers un truc complètement temps réel, et on a préféré donc tout simplement de découper les séquences. Ce qu'on a fait par la suite, je vais pas pouvoir vous le montrer maintenant parce que le projet n'a pas encore été filmé depuis, mais en gros entre les accélérations ou le motion, l'interprète a la possibilité au fur et à mesure de son apprentissage de découper cette pièce pour décider de prendre un peu plus de temps là et de redéclencher les choses. Mais c'est du simple déclenchement. Là, c'est un autre mode de jeu avec le motion qui va tout simplement déplacer un pointeur d'un buffer. Pour cet exemple, si je vous montre ça, c'est toujours à chaque fois, il y a une relation entre ce qu'écrit Thierry. Et là, il dit voilà, je veux des filtres comme ça, je vois des petits pointillés. Donc, moi, je prépare un outil, un instrument, où je me dis comment je vais pouvoir contraindre quelque part l'interprète à avoir ce type de gestuelle pour reproduire ce genre de son. Donc, à chaque fois, c'est un peu ce genre de relation. Où dans mon coin, je me suis mis à tester, à voir un peu comment ça sonnait, est-ce que c'était jouable avant de le donner à l'interprète, de manière à contraindre le geste. Un autre mode qui vient juste derrière, qui est les spaghettis, pareil, qui a évolué, où tout simplement on utilise en XY pour jouer sur un résonateur. Et également, il y a une indexation là, sur X, où la courbe représente un gain, en fait. C'est-à-dire qu'il y a également un autre son qui joue en région 1, en région 2, et quand il est au milieu, ben, le motion va se multiplier à cette amplitude, donc il va révéler encore plus fort le son quand il sera au milieu, et de moins en moins. Alors je ne vais pas pouvoir vous le faire écouter parce que ça n'a pas été enregistré. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment où j'ai rajouté ces sons et que j'ai expliqué l'enveloppe, curieusement, l'interprète a un geste qui correspond... c'est ça qui est très rigolo. C'est-à-dire, techniquement, on fait une proposition, des fois on la décrit plus ou moins maladroitement, et tout de suite, l'interprète... il a besoin de ça, le compositeur a besoin de ça pour se créer un univers, créer un geste en fait à partir de l'instrument, même si on perçoit pas directement comment il est conçu, ça aboutit à un geste particulier. Donc là je vois que j'ai peu de temps, donc je vais avancer un peu plus vite. Un autre mode de jeu où là c'est des couteaux tout simplement qui déclenchent des sons, c'est toujours un peu le même principe. Un autre mode de jeu où là, c'est des zones qui sont actives, c'est-à-dire que l'interprète, pareil, il danse et il sait que quand il arrive à tel endroit, clac, il avance dans le processus de la pièce où on voit des cues, là, comme ça, des événements. Et il avance comme ça. Et une fois qu'il a déclenché une case, ben, elle s'inhibe pour en déclarer une autre. Et ça nous a permis, comme ça, d'avancer dans la pièce. En fait, c'est un des premier truc qu'on a mis en place en se disant ça marche techniquement, et puis aujourd'hui c'est celui qu'on préfère le moins, qui pour nous est le moins abouti, parce que toute l'interactivité entre ces différents déclenchements elle n'est pas faite quoi. Et Thierry il a fait les sons sont fixés, et c'est vrai que ce serait intéressant, on va voir si on remet ça en cause ou pas, mais de donner plus aujourd'hui. Jean aimerait avoir plus d'interprétation, réactivité par rapport à ça.
Comment il s'agence les zones qui sont actives au fur et à mesure qu'elles évoluent ?
Eh bien, on met un celluloïde sur l'écran, ouais. Qui, avec on dessine le rectangle.
D'accord.
Donc lui, il voit sa main et il regarde l'écran et paf, il sait d'accord. qu'il est dedans, comme ça. Ça marche, hein. Curieusement, après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on fait des choses pour qu'elles soient techniquement... Voilà, j'ai fini, je crois. Hein. Je suis désolé. Est-ce qu'on fait des choses pour qu'elles soient techniquement publiables, ou est-ce qu'on fait de la musique quoi ? Toujours on se pose un peu ce genre de questions. Avec Thierry, ce qui est génial, c'est qu'on a fait de la musique en fait. Et ça marche, curieusement ça marche. Mais moi je suis surpris encore. C'est que même ce passage-là, bah, quand on voit Jean, d'abord il est convaincu qu'il est complètement... On peut lui dire, bah, c'est pas toi qui génère le son. Non, pour lui il est convaincu que c'est lui qui génère le son. Ce qui est à mon avis une bonne approche. Et visiblement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je peux vous montrer un petit peu comment on fait. Tu m'arrêtes.
Non, mais t'as le temps.
5-10 minutes.
Bah,
ok, je vais aller plus vite. C'est des sons qui sont un peu. C'est bien pour tester le système. Simplement, quand il met sa main, eh ben, il déclenche un sample qui tout de suite, il ne peut plus le rejouer, sauf pour un qui peut jouer deux fois, comme ça. Même principe. Et à l'écran, il voit le rectangle pour savoir où il est. Ce qui est intéressant, c'est ce genre de pièce, c'est que maintenant, ça fait donc 2004, ouais, ça nous fait plus de 6 ans qu'il joue ça. Jean devient expert. On a commencé ce projet où on était de toute façon tous au point zéro. Hein, moi, j'y connaissais rien de tout ça. Thierry, ben, il avait des envies, il avait l'expérience de son écriture, mais il ne connaissait pas l'outil. Jean non plus. Et petit à petit, Jean devient, il joue réellement super bien de la pièce.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Jean qui
m'ont... Non, mais prochainement, il y a l'intercontemporain qui c'est le premier à le reprendre. J'étais le premier surpris par ça, parce qu'on est l'intercontemporain.
C'est
Samuel. Et du coup, là, on a une prochaine session où il y a Georges Eli Octors qui voulait le rejouer. Alors, le problème, ça posait un problème de matériel, parce que c'est un G5 qui fait le tour du monde là, depuis pas mal d'années. Il n'y en a qu'un. Ouais, moi, j'en ai une copie, mais c'est officieux, ça. Mais il y en a un. Et puis, on flippe. On peut flipper, de toute façon. Donc, il faut vite passer, updater tout ça. Il y a une autre séquence qui est... là, c'est des grabs. Donc, c'est un passage où... dès que l'interprète va mettre les mains dans la lumière, il va déclencher un enregistrement de la vidéo qui, en même temps, par le motion, génère des enveloppes de volume sur un son. Après, il va passer... pas cette version-là, mais après, dès qu'il retire la main... Donc, actuellement, ça marche comme ça. C'est-à-dire que l'hélice qui fait... je vois que le motion démarre et je dis, à la fin du motion, hop, on avance tout de suite dans la prochaine séquence. Quand il remet les mains dans la lumière, paf, il déclenche la prochaine séquence. Ça veut dire qu'il devient l'interprète, il sait qu'il peut danser, il fait ce qu'il veut, mais s'il arrête le motion et qu'il reprend, paf, là, il est responsable du déroulement de la pièce. Et ce genre de responsabilité, ça peut paraître un peu simpliste, mais c'est très important pour l'interprète, parce qu'il est maître, lui, sur scène, il décide... Quand est-ce qu'il veut continuer, il est libre, quoi. Il prend son temps. Si à un moment donné, il veut prendre plus de temps, il peut le faire.
Donc là, le déclenchement est sur l'arrêt du geste.
Voilà. Donc, on commence à enregistrer sur le geste. Avant, il avait à compter 6 secondes pour qu'elle parte. En fait, après, la séquence part en palindrome. Mmh. Ça repart à l'envers et ça fait la boucle comme ça. Aujourd'hui, il fait quand il veut et quand il s'arrête, tac, elle repart à l'envers. D'accord. Évidemment, je mets une petite protection parce que s'il y a une erreur, il voit que ça repart à l'envers. Il y a un petit point d'or qui est mis qui empêche que dès qu'il remet la main, paf, ça repart directement. Il y a une petite sécurité, mais voilà, c'est casse-gueule de toute façon. Et puis tout s'enchaîne comme ça. Donc là, ça s'enchaîne avec après des hélices, etc.
Petite question sur toutes ces images qui sont là. En fait, c'est des documents de travail, c'est-à-dire c'est de la notation. C'est une notation qui a servi à construire le dispositif.
Et c'est faux, en fait. Ce que je vous montre, ça correspond déjà plus...
Ça correspond pas à ce qui est réalisé au
final. Pas tout à fait.
Donc c'est... Et c'est pas utilisé, en plus, pour interpréter l'œuvre.
Il n'y a pas de partition.
Là, ça, c'est la partition de Thierry qui a fournie à Jean. Et Jean a en permanence fait évoluer la partition...
Mais, il a sa propre version de la partition.
Voilà, et donc le prochain projet qu'on a, qui est encore, faut-il le dire, hein, si on fait ça, c'est parce qu'on est financé dans le cadre d'un projet européen, ou Interreg, c'est ça. Et donc on va se réunir, on va nous permettre de se réunir pour enfin mettre... Moi-même, j'ai pas la partition, en fait.
Mais c'est pas c'est une semaine, monsieur, c'est comme le chorégraphie. De la danse.
Oui.
Alors, c'est-à-dire que là, en plus...
C'est une notation entre la chorégraphie et la musique.
C'est fois une notation musicale et chorégraphique qui sont mélangées dans l'espace de la notation.
Exactement. Donc, je vais aller un peu plus vite, en fait. Juste pour vous montrer la première séquence, ça suffit. Maintenant, c'est quand il retire ses mains de la lumière que ça repart en arrière. Là, à l'époque, vous voyez, il attend d'ailleurs. Vous voyez que ça ne marche pas, ça. Et le clic-clic lui permettait de savoir que la séquence partait. Donc maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est lui qui déclenche absolument tout. Et alors là, on a aussi, vers la fin, où il a noté carrément avec langage des signes. Donc je pense que ça va rester un peu comme ça.
C'est C'est-à-dire qu'en fait, sur la notation du geste, il s'est basé sur le langage des signes, un peu.
Ouais. Ben non, là, pour cette partie-là, oui. Après, avant, pour c'est...
Pour cette partie-là, c'est-à-dire pour ce mode de jeu-là.
Celui que je vous montre actuellement celui-là. À l'écran. D'accord. Les autres, non. C'est plutôt lui qui... en fait, musique de table, c'est une pièce qui a été tellement jouée dans le monde qu'il a fait une première partition. Et à chaque fois que les gens lui redemandaient, il avait sous-noté, par exemple, un geste et il comprenait que les gens pouvaient l'interpréter différemment. Donc, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il augmente quelque part sa notation pour que les gens lui posent plus la question. Et en gros, sur une quinzaine d'années, pour lui, ça prend à peu près 15 ans. Au bout de 15 ans, il estime que ça y est, on ne lui demande plus jamais sa partition. Et ce qui est rigolo, c'est que la dernière fois, on était sur YouTube, il s'est rendu compte que Light Music est joué par des milliers de gens sans qu'ils soient au courant et qu'ils se réapproprient complètement la pièce et puis qu'ils se commentent entre eux. Ils disent « Ah ben non, là, c'est comme ça, etc. » Donc ça lui échappe complètement. Et donc, en gros, c'est tout ce travail qu'il a récupéré pour Light Music. Hein, mais il y a eu d'autres pièces. Silence Must Be était aussi une étape.
La musique portable qui est jouée plein de fois. Portable. Tu dis Light Music qui est jouée plein de fois sur YouTube.
Non, c'est musique portable. Excusez-moi, musique portable.
Et là, juste une question par rapport à cette partie-là. Donc, en fait, s'il a utilisé le langage des signes, il y a toute une sémantique qui est attachée à cette partie-là, hein, celle-là, que tu es en train de montrer.
Celle-là, il est carrément allé voir les sourds et muets pour demander.
Donc, il y a un vrai discours.
Là, il y a un vrai discours.
C'est silence, non ? C'est ça ?
Bon, alors là, il écrit silence à l'envers pour que les gens le voient à l'endroit. Mmh. Et après, on reprend. Ben on reprend ça, c'est-à-dire il faut avoir à l'intérieur de soi un chaos pour engendrer une étoile dansante, ouais. Et voilà. Une étoile et dansante. Donc ça, c'est... Donc à la fin du chaos, tout l'écran devient blanc, et puis voilà, il écrit. Et ce qui était génial, c'est qu'une fois, quand il fait KO, une fois il l'a fait, ça a généré une colombe magnifique à l'écran. Et il y a Épina Bauche qui était là, d'ailleurs, elle avait versé une petite larme. Et nous, on était là. C'est... Des fois, il se passe des choses complètement magiques. Là. Alors, le texte, au début, on l'avait mis, on l'a retiré. Là. On l'imprimait comme ça sur l'image, puis c'était con. Alors par exemple, là, c'est en régie qu'on déclenche le son. Là, il y a encore des choses qui sont déclenchées en régie. Hein. Après, c'est toujours pareil, c'est... L'interprète, s'il veut prendre la responsabilité, il peut, mais des fois, c'est ridicule, ça sert à rien. Fait, donc là, tac. Voilà, c'était pour montrer rapidement le synoptique du patch. Enfin, j'ai fait hier, hein. C'est bien, ça me permet d'être un peu plus clair. Je me suis rendu compte que d'ailleurs le patch il est beaucoup. Maintenant, si je refais le patch à l'envers, ce que je vais faire là prochainement, ben, il va être beaucoup plus simple qu'au départ. Parce qu'au départ, je savais pas. Pareil, on propose plein de choses, on ne sait pas dans quelle direction on part, donc j'avais mis tout un tas d'usines à gaz, là, et en fait, ça va être assez simple. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est la partie vidéo input, après, on passe en noir et blanc, on peut alimenter le motion, qui va lui donner, être câblé au VH pour toutes ces traces que vous voyez, là, de sorte graphique. On s'en sert pour le centroïde, qui va communiquer à l'ordinateur audio des coordonnées XY. Après, on a, on a la région qui permet justement d'envoyer soit total motion, c'est-à-dire on envoie le mouvement dans sa globalité, le mouvement de toutes les régions ou seulement de la région dans laquelle il y a le plus de mouvement. Voilà, c'est un peu les trois modes qui existent dans la librairie David Rugby qui est très très bien pour ça. Et après, il y a un sélecteur, mixeur. Et après tout ça, ça se remélange avec des graves. Alors je vous ai un peu zappé la pièce, hein, mais après il peut donc s'enregistrer et on relie ce grab-là donc sous forme de palindrome, mais on continue de faire en temps réel une analyse du mouvement et des régions qui régénèrent, qui pilotent des sons. Tout ça pour arriver à une vidéo de sortie et un flip en miroir, donc l'interprète voit la même chose que le public mais en miroir. Bon, le principe qui est un peu général et qui d'ailleurs de toute façon un peu appliqué à tous les projets que je réalise, bah, c'est un peu toujours le même modèle en fait. On a des petits modules qui font de la vidéo, du son, de la lumière, oui, parce qu'ils pilotent aussi la lumière, j'ai oublié de le dire, et puis des matrices divers, peu importe, et en gros tout ça, on a une sorte de liste de cues. Et chaque module peut à un moment donné avoir aussi une sorte de rétroaction sur l'avancée de la pièce. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement, à mon avis, proposer en édition ce genre de structure qui peut permettre de dire, je me mets en mode automatique, c'est-à-dire la pièce, je fais go, elle est jouée du début à la fin. Mais je peux à ce moment-là, très facilement, puisque c'est prévu dès le début, dire ben là, non, c'est moi qui vais prendre avec une enveloppe d'amplitude sur une percussion, avec le motion, vidéo, etc., qui vais déclencher l'étape suivante. Voilà, ben ça, c'est un petit peu une vue d'ensemble cette notion d'événement. Donc, le numéro d'événement vidéo qui est maître, qui va synchroniser, donc c'est un autre ordinateur qui va piloter au Mac audio. Et puis enfin, après, on a des marqueurs de fin de séquence audio qui vont directement donner un autre événement vidéo qui peut lui-même dire bah, ça y est, j'arme la caméra pour que dès qu'il y a un prochain mouvement, bah, je déclenche l'événement suivant. Donc une sorte de gestion d'état comme ça, entre le son et la vidéo. Et voilà, bon, c'est tout. Je n'ai pas le temps de vous montrer les patchs, mais c'est pas très grave. Est-ce que vous avez des questions?
En fait, comme tu le décris, c'est toujours un work in progress, ça n'a pas l'air fini. Ça.
C'est pas fini et je pense que ça ne sera jamais fini.
Alors la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir préserver, monter?
Alors, c'est une très bonne question. J'ai évidemment pas la réponse, en tout cas avec du recul, puisqu'on est dedans. Mais la question que je vais avoir, en fait, les questions que je vais poser à Thierry, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on décide de fixer ? C'est-à-dire de dire que les gens ne peuvent pas modifier. C'est-à-dire que c'est écrit, c'est comme ça, c'est light music, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que cette pièce soit. Il faut bien arrêter les choses. Et après, qu'est-ce qu'on donne à l'interprète, et puis plus que l'interprète, parce que ça sera forcément une équipe de deux, d'un interprète et d'un réalisateur. Il faudra deux interprètes quelque part pour réaliser ce genre de projet. Donc qu'est-ce qu'on va leur donner? Ben, moi je vais essayer de donner un outil où la personne va pouvoir faire quasiment play et la personne va pouvoir jouer dedans, mais on va dire zéro interaction. Et après lui donner une sorte de mode d'emploi pour qu'il puisse ouvrir justement des portes d'interaction. Et d'ailleurs, cette démarche-là, je pense que c'est ce qu'on pourrait appliquer pour toutes sortes de pièces, même une pièce pour bande, tout simplement stéréo. On pourrait. D'ailleurs, c'est le seul problème, c'est qu'elle est stéréo et après, on ne sait plus faire du crossing sans revenir à la source. Mais idéalement, il faudrait pouvoir la sectionner en fonction des interprètes.
Qui va faire le réalisateur?
Surtout pas.
Je comprends ta question, mais t'es un peu intéressé.
Non, en fait.
Non,
en fait, ça va être biaisé cette affaire, parce que du coup, ils évaluent pas la difficulté. C'est-à-dire que Jean, pour maîtriser tout ça, il faut se dire qu'il est devenu danseur. Et ça m'intéresse beaucoup en ce moment, parce que les prochains projets que j'ai à gérer, c'est avec des danseurs. Les danseurs ont une capacité de mémorisation du corps dans l'espace et dans le temps qui est phénoménale. Et même moins. Beaucoup moins. Parce qu'il y a quand même cette relation à la partition. Ils l'ont, hein. Ils ont en tout cas tous les atouts pour l'avoir, mais je viens de me rendre compte que ce qui va m'intéresser, moi, c'est light music joué par un danseur. Ça, à mon avis, ça va être hyper intéressant. Et je pense qu'ils y arriveront plus rapidement, je pense. Mais bon, tout ça, c'est ça qui est passionnant là-dedans, c'est que maintenant, ce qui est super, c'est qu'on a un projet qui plaît, donc qui a eu la chance d'être joué énormément, et qui est encore beaucoup demandé. Donc c'est grâce à la diffusion d'une œuvre qu'on a pu sans cesse, parce qu'en fait, toutes les évolutions de la pièce, il faut quand même comprendre qu'on a eu 3 fois 5 jours de résidence pour créer cette pièce. C'est très peu. Entre, évidemment, on a eu du temps. Il y a eu une première rencontre avec Laurent, où là, j'ai compris que j'allais droit dans... J'ai compris tout l'enjeu du projet, où je me suis dit, j'ai droit dans le mur, en fait. S'il y a Laurent qui n'est pas là, et je ne m'intéresse pas à ça, je suis foutu. Je ne peux pas y arriver. Et à partir de là, maladroitement, on a avancé les uns les autres pour arriver à ça. Et le projet, quand on l'a créé, c'était un G4, j'avais le sampler en externe parce que tout s'écroulait. Donc les choix, ils n'étaient pas que artistiques, et ni techniques liés à l'instrument. Et uniquement, c'était libre que l'ordinateur était en train de fumer et j'y arrivais pas, quoi. Donc il a fallu que j'utilise le One Region plutôt que le All Region parce que ça envoyait trop de data, des choses comme ça. Tout ça aujourd'hui, on va arriver à une sorte de paradigme où les sons existent. C'est quand même pas si compliqué que ça, en fait. Parce que les sons existent, l'écriture, donc là ça va poser un problème, jusqu'où l'écriture peut être interprétée avec ça. On va refilmer la pièce, parce que Jean veut de toute façon qu'il faut qu'il y ait une trace visuelle et sonore de la pièce telle qu'elle est aujourd'hui. Et à partir de là, ce qu'il faudrait, c'est réellement que les gens puissent se la réapproprier, quoi, et que ça soit un autre light music. On espère de ça. Ce que je ne sais pas avec Thierry, c'est par exemple les effets vidéo qu'on voit. Quand j'ai voulu reporter ça sur Jitter, j'obtenais d'autres effets vidéo. Et là, je me suis dit, mais merde, c'est plus la même pièce, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est plus moderne, parce que c'est très daté, en fait, cet effet vidéo. Mais c'est ce qui fait aussi le charme, quelque part, aussi de cette pièce.
Est-ce que, par exemple, les discontinuités là, dans la reproduction vidéo du geste, comme ça...
Ouais.
Ça fait comme ça, en quelque sorte. Donc ça, ça doit être très lié à des questions de vitesse, d'image.
Ouais, je pense. Je pense. Je
à pense. Si tu as une machine un peu plus puissante, et du coup, tu n'es plus du tout fragmenté, tu vas avoir un.
Non, ça n'a rien à voir avec la machine. C'est le logiciel qui. Tu demandes combien d'images il garde.
Non, mais.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est l'aspect. Non, la trace, le fait que ça s'efface au bout d'un certain temps. Ça, je comprends. Et c'est le fait que ça soit découpé.
Si, t'as raison, c'est le film que je vous ai montré date d'une... Quand j'ai eu le G5, c'est après. Quand j'ai eu le G5, ouais. C'était plus performant. Ouais. Donc t'avais une sorte de continuité de
voilà.
Ça.
Et, là,
Et curieusement, je me suis arrêté au 3.9, parce que quand je suis passé au 10.3.9 au niveau du système OS10, parce que quand je suis passé au 10.4, j'ai perdu de certaines performances. Et notamment... On s'en rend pas compte, mais les grabs, c'est des choses que j'ai testées longtemps avec un chronomètre pour voir si ça dérivait dans le temps. Est-ce que j'arrivais à enregistrer et lire une vidéo qui est stable dans le temps? C'est loin d'être simple. Et sauf BNS le faisait, mais dès que j'ai voulu passer en 10.4, ça posait d'autres, ça remettait en question des choses, en fait. Je pense que
sur le G5, il était tellement fluide.
Sur le G5, très fluide. Mmh.
Donc, comme la vidéo standard, à différence de Jitter ou d'autres programmes qui ne suivaient pas. Sauf VNS, ça veut dire Very Nervous System, et c'est un système qui est vraiment très très performant.
Et tu l'as retesté là, t'as testé ce qu'il vient de reporter là, tu l'as testé?
Non, je l'ai chargé, j'ai fait des petits tests, mais j'ai pas. Mais il manque toujours les fonctions principales que j'utilise.
C'est ça. Il faut. Moi, le problème de ça, c'est pareil. Mon plus gros souci, c'est sauf VNS, en fait. Le reste, ça ne m'inquiète pas trop. C'est-à-dire que sauf VNS, ça dépend d'un gars, quoi.
Ça, en Jitter, c'est toujours pas possible.
Ben, Jitter, si, quasiment tout, mais j'ai pas les mêmes effets vidéo. Il faudrait que je demande à David de me filer ses sources pour le refaire dans Jitter. Je pense qu'il va pas vouloir. Ça m'étonnerait. Et je suis pas sûr que j'arrive à une stabilité que j'ai pu avoir avec sauf VNS. Donc, ça pose. Il y a danger, en fait. Cette pièce est...
Sauf VNS, c'est open source?
Non.
À Albi, là, pendant les journées électriques, il y a un truc qui n'était pas du tout de la danse, mais c'était en relation avec le geste, et c'était assez rigolo. c'est une installation de Pascal Houbin. Et en fait, elle a filmé des gens, des professionnels. Bon, tu as toutes sortes de professionnels, tu as le plâtrier par exemple, etc. Et elle les a filmés, notamment en train de faire leurs gestes sans leurs instruments, donc dans le vide en quelque sorte. Et donc elle a abstrait en quelque sorte les instruments du geste. Et donc elle, c'est une chorégraphe, et c'était assez intéressant de voir que ces gestes-là, du fait qu'ils étaient des gestes professionnels, il y avait une sorte de cohérence interne qui faisait que, en ayant abstrait des instruments de travail, ça devenait des gestes chorégraphiques. Et tu as toutes sortes de gestes, y compris des gestes d'un métier que je ne connaissais pas, qui est castreur de poulet. enfin, voilà, des métiers très, très improbables comme ça. Castrateur de poulet, peut-être.
Et à l'IRCAM, est-ce que vous arrivez à fédérer une méthode justement d'écriture, de patch, pour pérenniser un peu les pièces? Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez ou pas vraiment?
En fait, si vous pensez à ça, moi je pense que ça devrait passer par la pédagogie. En fait, on en parlait avec Max de l'étudiant qui sort du cursus. Envoyer arriver à un programme et ça régulièrement aussi. Et je pense que ça devrait passer par là. Une sorte de bon style de programmation.
Ouais, je sais, en tout cas, pour l'année prochaine, je vais commencer un travail avec le Conservatoire National Supérieur de Lyon. Où en fait, moi, je suis plus proche des musiciens, des interprètes que des compositeurs, en fait. Ce qui me soucie, c'est de me dire comment un interprète peut s'approprier une pièce avec dispositif alors qu'il est tout seul. Il a un ordinateur, il peut avoir un patch. Enfin, l'idéal, hein, je raisonne idéalement. Mais je connais de plus en plus d'interprètes qui connaissent Max. Ils ont l'ordinateur, ils ont tout en fait. Donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de programmer en ayant cet objectif, en me disant ce souci en fait, de se dire mais si j'étais musicien, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme information? Quel outil me permettrait de m'approprier une œuvre, de pouvoir travailler, etc.
C'est vrai, ça change tout, parce que par exemple, on parlait dans le micro tout à l'heure, moi j'ai fait des ateliers avec des manassiennes et des chanteuses, pas sur un écho, mais sur d'autres pièces, et puis on a du temps, mais en fait, je les laissais en studio avec une machine, et moi j'allais voir un café, et j'ai laissé travailler avec le patch et répéter. Et pareil avec les discussions. Et ça change tout, parce que l'interprète, il est tout seul avec la machine, il n'y a pas la médiation.
C'est ça.
Et du coup, il se l'approprie comme ton instrument, et ça, c'est...
Oui, parce que en plus, ce qui est bien avec un interprète, c'est que même si ton patch ne marche pas bien, à un moment donné, il s'en fout. Il dit, je veux qu'il arrête d'évoluer. Tu vois, cette notion d'instrument, je veux prendre possession d'un truc et me l'approprier.
Tu as dit aussi quelque chose d'intéressant sur l'évolution du patch et de l'apprentissage, le co-apprentissage entre toi et le percussionniste. Parce que tu dis, je lui sais de moins en moins pour qu'il joue de plus en plus. Moi aussi, je prends cette approche-là. Mais moi, c'est un peu. Je me dis, des fois, il ne faut pas trop faire évoluer l'instrument pour que l'instrumentiste apprenne à jouer, et même avec ses défauts.
C'est ça. C'est ce que tu dis. C'est ça. Donc, c'est l'histoire, en fait.
Si on est trop expérimental, si on change tout le temps, on ne peut pas apprendre à en jouer.
Exactement. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est réellement une histoire. C'est une histoire de deux personnes qui vont travailler ensemble sur une pièce, etc. Et on a la chance de pouvoir le faire avec des pièces de solistes, notamment. Là, ça peut se réaliser, parce que c'est soliste. Qu'est-ce qu'on est frustré quand on travaille avec des ensembles instrumentaux où il y a une quinzaine d'interprètes? On ne peut pas faire ça. J'ai fini, en fait.
Merci. 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 Si on veut pouvoir jouer le concert de ce soir...
On va laisser la parole à Nick Collins qui va nous parler d'un autre programme, on va changer un peu d'univers. Il travaille plutôt sur le Super Collider. Donc, ça va être un peu plus de temps.
pour la pousser.
Je vais essayer de regarder comment on peut...